Il ne faut pas confondre écriture et alphabet. Alors, quand on prend l'écriture chinoise, quand on prend l'écriture symbolique japonaise, donc kanji, et donc, on se rend compte qu'on est face à des symboles qui ont un sens, qui représentent quelque chose, un peu comme les smileys. Il est tout à fait possible de représenter des actions à travers des smileys ou des sentiments, ou des impressions. Il y a d'ailleurs un livre qui a été écrit, composé entièrement de smileys, et ça se lit assez facilement sans être en capacité de connaître l'alphabet. Vous donnez ce livre à un enfant de 5 ans qui ne maîtrise pas encore la lecture, ben il comprend, curieusement. Voilà, donc les symboles permettent de transmettre des informations. Donc on quitte cette notion de symbole avec l'arrivée de l'alphabet, l'alphabet qui est né au niveau du Sinaï, entre la rencontre de deux civilisations, une civilisation égyptienne avec les hiéroglyphes et une civilisation du peuple de Canaan. De là est né l'alphabet, donc Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, donc Sin, Shin, Tav, donc en fait c'est l'alphabet hébreu dans lequel on n'a que des consonnes où il n'y a pas de voyelles, et à partir de là on voit apparaître des modifications de cet alphabet hébreu, notamment au niveau des Grecs puis des Latins, et tout a été comme ça repris de par le monde. Il faut dire que même les Chinois ont dû adapter leur écriture, qui était très 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 difficile à pratiquer. D'ailleurs, ce qui fait que les écoles et donc les monastères chez les Chinois étaient plus réservés à certaines populations. Tout le monde n'avait pas accès à l'écriture. Donc, dans les années 40, il me semble, à l'époque de Mao ou du communisme, de mémoire, l'écriture chinoise a été adaptée et simplifiée. Et avec l'arrivée des ordinateurs, bien sûr, ils ont dû revoir carrément, complètement leur système d'encodage. Voilà, donc ceci étant, la petite histoire est la suivante. Lorsque le dieu Thoth, donc chez les Égyptiens, a inventé l'écriture, il est parti tout joyeux annoncer cela à ses collègues dieux. Et en fait, la plupart d'entre eux se sont fâchés et ont considéré que c'était ce qu'il y avait de pire. Dans la mesure où on sortait, on délocalisait de cette façon le savoir, la connaissance des êtres humains, c'est-à-dire qu'on était en capacité de déposer le savoir en dehors des communicants, donc des humains, des prêtres, des sachants. Ce qui fait que toute personne qui comprenait simplement les écritures pouvait acquérir la connaissance, sans être initié ou sans être dans une caste, dans un groupe. Donc les dieux n'ont pas apprécié du tout. Ils ont crié sur Thoth, hein, Thoth qui est le dieu qui ressemble à Hermès, hein, chez les Grecs. Donc Thoth qui est représenté par un être humain à tête d'ibis ou un babouin. Et donc c'est lui qui aurait inventé l'écriture. Donc, l'écriture permet comme ça de communiquer sans être en contact l'un avec l'autre. Et l'alphabet, justement, a cette capacité qu'il permet de transformer les sons en mots. Et d'ailleurs, quand on prend les écrits du 15e siècle ou du 16e siècle ou du 17e siècle, on voit que l'alphabet reste pareil, hein, mais que les mots changent. Concrètement, on voit des transformations. L'alphabet ne bouge pas tant que ça. Ce qui a bougé, certainement, c'est les pauses, c'est la ponctuation, c'est la compréhension de certains mots. Des mots qui ont des sens qui ont changé dans le temps, même s'ils se prononcent de la même façon. Alors, pourquoi cette introduction sur la notion d'écrit, d'écriture et d'alphabet? Simplement pour dire que aujourd'hui nous sommes dans un monde dit de multimédia où on écrit beaucoup, tout le monde écrit, on a accès aux ordinateurs, aux téléphones portables et on écoute aussi beaucoup sur les réseaux sociaux bien sûr. Et on se parle de moins en moins, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de contacts humains et il y a de plus en plus d'intermédiaires, de médias. Donc les médias font la jonction, font le lien entre les différents humains qui, de ce fait, peuvent, à travers les médias, envoyer des messages, des humeurs, et ceux qui sont de l'autre côté récupèrent ces informations-là, qu'elle soit écrite aujourd'hui, audio ou visuelle, donc à travers les médias, on récupère comme ça de l'information. La question se pose de la qualité de l'information. Alors, qu'est-ce qu'une information de qualité? Et on va se limiter tout simplement à notre domaine, le domaine de la santé. Qu'est-ce qu'une information de qualité? Alors, on va pas réinventer la roue. Concrètement, il faut que l'information soit juste, elle soit bien adaptée au contexte et que tout le monde puisse la comprendre. Bien entendu, mais dans certains cas, les informations sont utiles, parfois elles ne le sont pas. Donc, quand il y a trop d'informations, ça peut ne servir à rien, ça peut même être contre-productif. On comprend que un patient qui rentre dans une structure d'hospitalisation programmée, qui vient pour un acte ciblé, par exemple une coloscopie, et que la coloscopie s'est bien passée, le patient a fait à peine une journée, il rentre chez lui, on est plus sur un compte-rendu d'actes et s'étendre sur l'état général du patient. Est-ce qu'il est diabétique? Est-ce que il prend des antihypertenseurs? Est-ce que il est allergique? Est-ce que combien, si c'est une dame, combien il a eu d'enfants, etc. Donc on est face à finalement un patient qui vient pour un acte ciblé, une coloscopie, une endoscopie. La question c'est pourquoi raconter sa vie? Pourquoi est-ce que le praticien qui a fait cet acte doit raconter la vie du patient comme s'il était médecin généraliste? Donc dans ce cas, on comprend que la lettre de liaison qui est faite par le gastroentérologue va droit au but. On ne va pas lui demander d'énumérer le nombre de grossesses et de reprendre l'ensemble des traitements, y compris ceux qui ont une visée, par exemple, psychotrope. Voilà, donc, pour dire que des informations doivent être adaptées au contexte. Faire du systématique n'a aucun sens. Bien entendu, lorsqu'on est face à des patients qui sont en médecine, personnes fragiles, où la durée de séjour est longue, ben, l'information doit être la plus étoffée possible. Donc, vouloir faire du systématique est contre-productif. Si on a une liste de cases à cocher qui est identique pour tout le monde, cela est contre-productif. Il faut aller tout de suite au but dans l'intérêt du patient. Alors, donc, dans les informations qu'il faut transmettre, bien sûr, il y a la maladie, mais l'objectif premier d'une information, c'est que celui qui reçoit cette information a peut-être ou pas un pouvoir. Concrètement, lorsque le patient sort de l'hôpital ou de la clinique, celui qui le reçoit, donc le médecin traitant ou l'autre spécialiste, a peut-être quelque chose à surveiller. Il a peut-être un pronostic qui lui est déjà donné. Donc, un fruit du résultat des différentes explorations avant. Donc, quand une information est donnée, elle ne donne pas, elle ne se limite pas uniquement aux actes qui ont été faits, mais elle doit normalement orienter ou aider le collègue soignant, médecin, infirmier, kiné, l'orienter dans la prise en charge. Donc on est face à, de façon très macroscopique, de façon grosso modo, comme on dit, sur l'idée de pronostic. Comment va évoluer le patient dans le temps? Si on le prend en charge de cette façon ou si on ne le prend pas en charge. Donc quelle est la perspective? L'acte a été fait, l'hospitalisation a eu lieu, le patient sort, la lettre va orienter la prise en charge au domicile, par exemple, ou dans une autre structure. Donc, cela permet en quelque sorte de passer le témoin. On a des critères, bien entendu, qui sont obligatoires, hein, c'est les médicaments. Là, on ne peut pas y échapper. Est-ce que les médicaments qu'a le patient en sortant sont les mêmes qu'en rentrant à l'hôpital? C'est obligatoire. S'il y a eu des actes, quelles sont les surveillances? Si le patient a malheureusement hérité d'une bactérie multirésistante, comment à l'extérieur continuer par surveiller cet état-là? Voilà, donc on est face à ces différentes interrogations. Alors, qui doit faire la lettre de liaison? Est-ce que c'est la pauvre secrétaire qui fait un copier-coller des différents éléments et qui parfois arrive à faire signer le praticien. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée que de laisser les secrétaires médicales fabriquer toutes seules les comptes rendus. C'est au médecin qui a en charge le patient de faire une synthèse et d'aider son collègue ou les soignants qui vont prendre en charge le patient plus tard, de les aider dans tel type de prise en charge, de surveillance. Voilà, donc il est très important que les praticiens reprennent la main sur les lettres de liaison. Alors, est-ce que des outils comme la messagerie sécurisée, HappyCrypt, MS Santé, est-ce que le DMP ont une importance énorme dans ce process-là? Je pense que non, tout simplement parce que, comme c'est bien dit, la lettre de liaison est faite par le praticien, elle est remise au patient le jour même de sa sortie avec les explications qu'il faut. Alors si le patient n'a pas la capacité de comprendre, ben, il faut les ayants droit, aux personnes de confiance. Il faut se préoccuper de rencontrer et auquel on va donc donner des informations utiles, nécessaires. Donc, focaliser les énergies sur la messagerie sécurisée, plus ou moins le DMP, c'est oublier aussi que le médecin traitant ou les soignants à l'autre bout n'ont pas forcément accès à ces solutions informatiques, MS Santé et autres, ou n'ont pas le temps tout simplement. Donc un patient qui sort un jeudi en fin de journée ou un vendredi matin, la lettre est faite, elle part par MS Santé dans le DMP. Le praticien, lui, il est en visite chez d'autres patients, il n'est pas forcément connecté. Le courrier, il le verra beaucoup plus tard. Donc, revenir aux fondamentaux, donner au patient le courrier en main propre. Lui expliquer avec copie au médecin traitant et bien sûr les ordonnances de sortie, c'est indispensable. C'est obligatoire. D'ailleurs, ça fait partie des critères qualité. Voilà, donc, et puis, pour finir, pourquoi faire tout cet effort-là si les différents praticiens, les différents soignants ne se donnent pas la peine de se connaître l'un et l'autre? Donc, au-delà du papier, au-delà des systèmes informatiques, il est nécessaire et indispensable que les praticiens, entre eux, les soignants, entre eux, puissent prendre le temps de se connaître, d'échanger. Parce qu'envoyer une lettre de sortie, un compte-rendu, sans se préoccuper de qui est au bout, ça peut être comme jeter une bouteille à la mer. On ne sait pas si demain elle sera ouverte et le message lu. Voilà, donc ici une petite histoire sur l'invention de l'écriture, du dieu Thoth, de la notion d'alphabet et puis de l'importance de garder à l'esprit que le médecin qui connaît son patient, qui le fait sortir, doit orienter la prise en charge au domicile et le médecin qui voit arriver au domicile ou dans une autre structure son patient est censé récupérer un témoin, donc un compte rendu, une lettre de liaison qui l'aide à prendre en charge le patient. Le tout doit se faire, je dirais pas en bonne intelligence, mais en parfaite complémentarité, en parfait respect des règles du métier. Vouloir des indicateurs qualité sans réellement favoriser les relations humaines, c'est quelque part tourner en rond et oublier le patient. Voilà, ce n'est pas et ce ne sont pas les services qualité qui font la qualité de la lettre de liaison, c'est la confiance qui existe entre les soignants. Si les soignants n'ont pas confiance entre eux, si ils ne se préoccupent pas du patient, le service qualité peut produire tous les indicateurs qu'il veut. Ça ne marchera pas. On aura de très bons indicateurs sur le papier, mais dans la réalité, tout sera différent. Donc, lorsque Thoth a inventé l'écriture, les dieux se sont inquiétés en disant que les gens ne se parleront plus, qu'ils manqueront de fait de transmission d'homme à homme, et que au bout du bout, le risque majeur, c'est la perte des relations humaines et la perte des relations de sagesse, du critère sagesse basé sur la mémoire transmise entre diverses personnes pour ne pas refaire les mêmes erreurs, parce que celui qui se lève en disant voilà, j'ai Internet, je sais, ou j'ai ChatGPT, je sais, finalement, il ne discute pas avec son collègue à côté qui lui aussi est sur Internet. Et chacun s'envoie des petits mots, des petits smileys, etc. Mais finalement, ils ne se connaissent pas. Le temps passe. Et cette mémoire électronique se développe, prend de plus en plus de l'importance. Et finalement, l'être humain, donc les soignants et le patient, sont totalement oubliés. Voilà, donc une brève histoire de l'écriture.